Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, troisième partie, chapitre 2, premier sous-chapitre. Le principe du déterminisme expérimental n'admet pas d'effet contradictoire. Premier exemple. Il y a longtemps déjà que j'ai fait connaître une expérience qui, à cette époque, surprit beaucoup les physiologistes. Cette expérience consiste à rendre un animal artificiellement diabétique au moyen de la piqûre du plancher du quatrième ventricule. J'arrivais à tenter cette piqûre par suite de considérations théoriques que je n'ai pas à rappeler. Ce qu'il importe seulement de savoir ici, c'est que je réussis du premier coup, c'est-à-dire que je vis le premier lapin que j'opérais devenir très fortement diabétique. Mais ensuite, il m'arriva de répéter un grand nombre de fois, 8 ou 10 fois, cette expérience sans obtenir le premier résultat. Je me trouvais dès lors en présence d'un fait positif et de 8 ou 10 faits négatifs. Cependant, il ne me vint jamais à l'esprit de nier ma première expérience positive au profit des expériences négatives qui la suivirent. Étant bien convaincu que mes insuccès ne tenaient qu'à ce que j'ignorais le déterminisme de ma première expérience, je persistais à expérimenter en cherchant à reconnaître exactement les conditions de l'opération. Je parvins, à la suite de mes essais, à fixer le lieu précis de la piqûre et à donner les conditions dans lesquelles doit être placé l'animal opéré. De sorte qu'aujourd'hui, on peut reproduire le fait du diabète artificiel toutes les fois que l'on se met dans les conditions connues exigées pour sa manifestation. À ce qui précède, j'ajouterai une réflexion qui montrera de combien de causes d'erreur le physiologiste peut se trouver entouré dans l'investigation des phénomènes de la vie. Je suppose qu'au lieu de réussir du premier coup à rendre un lapin diabétique, tous les faits négatifs se fussent d'abord montrés. Il est évident qu'après avoir échoué 2 ou 3 fois, j'en aurais conclu non seulement que la théorie qui m'avait guidée était mauvaise, mais que la piqûre du quatrième ventricule ne produisait pas le diabète. Cependant, je me serais trompée. Combien de fois a-t-on dû, et devra-t-on encore, se tromper ainsi ? Il paraît impossible même d'éviter d'une manière absolue ces sortes d'erreurs. Mais nous voulons seulement tirer de cette expérience une autre conclusion générale qui sera corroborée par les exemples suivants, à savoir que les faits négatifs considérés seuls n'apprennent jamais rien. Deuxième exemple. Tous les jours, on voit des discussions qui restent sans profit pour la science parce que l'on n'est pas assez pénétré de ce principe que chaque R ayant son déterminisme, un fait négatif ne prouve rien et ne saurait jamais détruire un fait positif. Pour prouver ce que j'avance, je citerai les critiques que M. Longet a faites autrefois des expériences de M. Magendie. Je choisirai cet exemple, d'une part parce qu'il est instructif, et d'autre part, parce que je m'y suis trouvé mêlé et que j'en connais exactement toutes les circonstances. Je commencerai par les critiques de M. Longet relativement aux expériences de Magendie sur les propriétés de la sensibilité récurrente des racines rachidiennes antérieures. La première chose que M. Longet reproche à Magendie, c'est d'avoir varié d'opinion sur la sensibilité des racines antérieures et d'avoir dit en 1822, que les racines antérieures sont à peine sensibles, et en 1839, qu'elles sont très sensibles. À la suite de ces critiques, M. Longet s'écrit « La vérité est une, que le lecteur choisisse, s'il l'ose, au milieu de ces assertions contradictoires opposées du même auteur. » Enfin, ajoute M. Longet, M. Magendie aurait dû au moins nous dire, pour nous tirer d'embarras, lesquelles de ses expériences il a convenablement faites, celle de 1822 ou celle de 1839. Toutes toutes ces critiques sont mal fondées et manquent complètement aux règles de la critique scientifique expérimentale. En effet, si Magendie a dit en 1822 que les racines antérieures étaient insensibles, c'est évidemment qu'il les avait trouvées insensibles. S'il a dit ensuite en 1839 que les racines antérieures étaient très sensibles, c'est qu'alors il les avait trouvées très sensibles. Il n'y a pas à choisir, comme le croit M. Longet, entre ces deux résultats. Il faut les admettre toutes deux, mais seulement les expliquer et les déterminer dans leurs conditions respectives. Quand M. Longet s'écrit « La vérité est une », cela voudrait dire que, si l'un des deux résultats est vrai, l'autre doit être faux. Pas du tout. Ils sont vrais tous les deux. À moins de dire que dans un cas, Magendie a menti, ce qui n'est certainement pas dans la pensée du critique. Mais en vertu du principe scientifique du déterminisme des phénomènes, nous devons affirmer, a priori, d'une manière absolue, qu'en 1822 et en 1839, Magendie n'a pas vu le phénomène dans des conditions identiques. Et ce sont précisément ces différences de conditions qu'il faut chercher à déterminer afin de faire concorder les deux résultats et de trouver ainsi la cause de la variation du phénomène. Tout ce que M. Longet aurait pu reprocher à Magendie, c'était de ne pas avoir cherché lui-même la raison de la différence des deux résultats. Mais la critique d'exclusion que M. Longet applique aux expériences de Magendie est fausse et en désaccord, ainsi que nous l'avons dit, avec les principes de la critique expérimentale. On ne saurait douter qu'il s'agisse dans ce qui précède d'une critique sincère et purement scientifique, car, dans une autre circonstance relative à la même discussion, M. Longet s'est appliqué à lui-même cette même critique d'exclusion, et il a été conduit dans sa propre critique au même genre d'erreur que dans celle qu'il appliquait à Magendie. En 1839, M. Longet suivait, ainsi que moi, le laboratoire du Collège de France, lorsque Magendie, retrouvant la sensibilité des racines rachidiennes antérieures, montra qu'elle est empruntée aux racines postérieures et revient par la périphérie, d'où le nom de sensibilité en retour ou sensibilité récurrente qu'il lui donna. M. Longet vit donc alors, comme Magendie et moi, que la racine antérieure était sensible et qu'elle l'était par l'influence de la racine postérieure. Et il le vit si bien qu'il réclama pour lui la découverte de ces derniers faits. Mais il arriva plus tard, en 1841, que M. Longet, voulant répéter l'expérience de Magendie, ne trouva pas la sensibilité dans la racine antérieure. Par une circonstance assez piquante, M. Longet se trouva alors relativement au même fait de sensibilité des racines rachidiennes antérieures, exactement dans la même position que celle qu'il avait reprochée à Magendie, c'est-à-dire qu'en 1839, M. Longet avait vu la racine antérieure sensible et qu'en 1841, il la voyait insensible. L'esprit sceptique de Magendie ne s'émouvait pas de ses obscurités et de ses contradictions apparentes. Il continuait à expérimenter et disait toujours ce qu'il voyait. L'esprit de M. Longet, au contraire, voulait avoir la vérité d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi il se décida pour les expériences de 1841, c'est-à-dire pour les expériences négatives. Et voici ce qu'il dit à ce propos. Bien que j'aie fait valoir à cette époque, en 1839, mes prétentions à la découverte de l'un de ces faits, la sensibilité récurrente, aujourd'hui que j'ai multiplié et varié les expériences sur ce point de physiologie, je viens combattre ces mêmes faits comme erronés, qu'on les regarde comme la propriété de Magendie ou la mienne. Le culte dû à la vérité exige qu'on ne craigne jamais de revenir sur une erreur commise. Je ne ferai que rappeler ici l'insensibilité tant de fois prouvée par nous des racines et des faisceaux antérieurs, pour que l'on comprenne bien l'inanité de ces résultats qui, comme tant d'autres, ne font qu'encombrer la science et gêner sa marche. Il est certain qu'après cet aveu, M. Longet n'est animé que du désir de trouver la vérité. Et M. Longet le prouve quand il dit qu'il ne faut jamais craindre de revenir sur une erreur commise. Je partage tout à fait son sentiment et j'ajouterai qu'il est toujours instructif de revenir d'une erreur commise. Ce précepte est donc excellent et chacun peut en faire usage, car tout le monde est exposé à se tromper, excepté ceux qui ne font rien. Mais la première condition pour revenir d'une erreur, c'est de prouver qu'il y a erreur. Il ne suffit pas de dire « je me suis trompé ». Il faut dire « comment on s'est trompé ». Et c'est là précisément ce qui est important. Or, M. Longet n'explique rien. Il semble dire purement et simplement « en 1839, j'ai vu les racines sensibles. En 1841, je les ai vues insensibles plus souvent. Donc, je me suis trompé en 1839. » Un pareil raisonnement n'est pas admissible. Il s'agit en effet, en 1839, à propos de la sensibilité des racines antérieures, d'expériences nombreuses dans lesquelles on a coupé successivement les racines rachidiennes, pincé les différents bouts pour constater leurs propriétés. Magendy a écrit un demi-volume sur ce sujet. Quand ensuite on ne rencontre plus ces résultats, même un grand nombre de fois, il ne suffit pas de dire pour juger la question, qu'on s'est trompé la première fois et qu'on a raison la seconde. Et d'ailleurs, pourquoi se serait-on trompé? Dira-t-on qu'on a eu les sens infidèles à une époque et non à l'autre? Mais alors, il faut renoncer à l'expérimentation. Car la première condition pour un expérimentateur, c'est d'avoir confiance dans ses sens et de ne jamais douter que de ses interprétations. Si maintenant, malgré tous les efforts et toutes les recherches, on ne peut pas trouver la raison matérielle de l'erreur, il faut suspendre son jugement et conserver en attendant les deux résultats, mais ne jamais croire qu'il suffise de nier des faits positifs au nom de faits négatifs plus nombreux, ou vice-versa. Des faits négatifs, quelque nombreux qu'ils soient, ne détruisent jamais un seul fait positif. C'est pourquoi la négation pure et simple n'est point de la critique et, en science, ce procédé doit être repoussé d'une manière absolue parce que jamais la science ne se constitue par des négations. En résumé, il faut être convaincu que les faits négatifs ont leur déterminisme comme les faits positifs. Nous avons posé en principe que toutes les expériences sont bonnes dans le déterminisme de leurs conditions respectives. C'est dans la recherche des conditions de chacun de ces déterminismes que gît précisément l'enseignement qui doit nous donner les lois du phénomène, puisque par là nous connaissons les conditions de son existence et de sa non-existence. C'est en vertu de ce principe que je me suis dirigé quand, après avoir assisté en 1839 aux expériences de Magendy et en 1841 aux discussions de M. Longet, je voulus moi-même me rendre compte des phénomènes et juger les dissidences. Je répétais les expériences et je trouvais, comme Magendy et comme Longet, des cas de sensibilité et des cas d'insensibilité des racines rachidiennes antérieures. Mais convaincu que ces deux cas tenaient à des circonstances expérimentales différentes, je cherchais à déterminer ces circonstances. Et à force d'observation et de persévérance, je finis par trouver les conditions dans lesquelles il faut se placer pour obtenir l'un ou l'autre résultat. Aujourd'hui que les conditions du phénomène sont connues, personne ne discute plus. Monsieur Longet lui-même et tous les physiologistes admettent le fait de la sensibilité récurrente comme constant dans les conditions que j'ai fait connaître. D'après ce qui précède, il faut donc établir comme principe de la critique expérimentale le déterminisme absolu et nécessaire des phénomènes. Ce principe, bien compris, doit nous rendre circonspects contre cette tendance naturelle à la contradiction que nous avons tous. Il est certain que tout expérimentateur, particulièrement un débutant, éprouve toujours un secret plaisir quand il rencontre quelque chose qui est autrement que ce que d'autres avaient vu avant lui. Il est porté par son premier mouvement à contredire, surtout quand il s'agit de contredire un homme haut placé dans la science. C'est un sentiment dont il faut se défendre parce qu'il n'est pas scientifique. La contradiction pure serait une accusation de mensonge, et il faut l'éviter, car, heureusement, les faussaires scientifiques sont rares. D'ailleurs, ce dernier cas ne relevant plus de la science, je n'ai pas à donner de préceptes à ce sujet. Je veux seulement faire remarquer ici que la critique ne consiste pas à prouver que d'autres se sont trompés. Et quand même on prouverait qu'un homme éminent s'est trompé, ce ne serait pas une grande découverte. Et cela ne peut devenir un travail profitable pour la science qu'autant que l'on montre comment cet homme s'est trompé. En effet, les grands hommes nous instruisent souvent autant par leurs erreurs que par leurs découvertes. J'entends quelquefois dire « Signaler une erreur, cela équivaut à faire une découverte. » Oui, à la condition que l'on mette au jour une vérité nouvelle en montrant la cause de l'erreur. Et alors il n'est plus nécessaire de combattre l'erreur, elle tombe d'elle-même. C'est ainsi que la critique équivaut à une découverte. C'est quand elle explique tout sans rien nier et qu'elle trouve le déterminisme exact de faits en apparence contradictoire. Par ce déterminisme, tout se réduit, tout devient lumineux. Et alors, comme dit Leibniz, la science, en s'étendant, s'éclaire et se simplifie.